les chiffres viennent de tourner, il est 20h maintenant. On écoute Nana Mouskouri et puis l'émission Bonne Aventure va démarrer. C'était Radio, un disque, un micro, la radio qui n'a qu'un disque et qu'un micro. Bientôt place à Bonne Aventure. Maïder et Chouan vient de rejoindre la table de nos invités. Préparez-vous. Ça va commencer. Nana Mouskouri, soleil, soleil. Vous êtes sur radio, un disque, un micro. Bonne Aventure devrait bientôt prendre le relais. Nous attendons que nos invités rejoignent la table s'ils nous entendent. Nous sommes donc en direct au musée Bonnat à Bayonne. Il est l'heure de commencer Bonne Aventure. Si vous êtes connectés, peut-être on peut écouter un disque en attendant. Eh bien, écoutons Nana Mouskouri, Soleil, Soleil. Dans Nana Mouskouri, vous l'aurez compris, radio, un disque, un micro, la radio qui n'a qu'un disque et qu'un micro. S'il est rayé, on est mal barré. Nana Mouskouri, donc nous attendons Hervé Legros, qui fait partie de nos trois invités ce soir avec Jean-François Tétier et Maïder Etchouan, rejoignent le plateau de Bonne Aventure. Si vous le croisez dans le musée Bonnat, Hervé Legros est habillé tout de blanc, avec le petit foulard rouge, puisqu'évidemment nous sommes à Bayonne et que ce soir débutent les fêtes de Bayonne. Rendez-vous, je vous rappelle, sur la place de la mairie à 22h pour le jeté des clés par Guy Forge et le tennisman. On va calmer Nana un petit peu. Voilà, merci Nana. Donc 22h, début des ouvertures des fêtes de Bayonne sur la place de la mairie. Jeter des clés par les stars, comme c'est l'habitude à Bayonne. Donc Guy Forget et puis Francis Cabrel jetteront les clés dans la foule. Attention, la clé est lourde, elle peut blesser les gens. Bonne Aventure n'a pas encore commencé, vous êtes à l'écoute de Radio, un disque, un micro. Nous attendons notre invité peut-être, on me dit on y va, on me fait des signes. Nana va se coucher, nous démarrons Bonne Aventure. Bonsoir.
Dans la chaleur d'une nuit de juin, ils seront 5. Et vous, vous serez des milliers à venir partager l'événement de l'année.
Vous avez vu que j'ai pris l'adresse du site internet que vous venez de lancer. Je le redonne pour ceux qui ne l'auraient pas vu, www.radiofrac.com. Et j'espère que le site du ministère de la Culture sera aussi branché que le vôtre.
Bonne Aventure. Bayonne 2005, les géants de l'angoisse. Retrouvez des invités en vacances, des chroniques à faire peur. Bref, toute l'actualité de cet été. Bonne Aventure. L'émission en direct, un mercredi sur deux, de 20h à 21h, sur www.radiofrac.com. Ça vous va? We'll be right back.
Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Bonne Aventure en direct du musée Bonnat à Bayonne et sur le site www.radiofrac.com. Bonne Aventure, émission que vous pouvez retrouver en direct un mercredi sur deux pendant tout l'été. Alors, à une heure du lancement des fêtes de Bayonne, nous sommes toute l'équipe de Radio Frac est réunie autour de moi, Cyril, Stéphane, Joachim et François, pour animer un débat sur l'exposition au titre évocateur, le thème un peu bidon de la femme, qui se tient dans le cadre de la manifestation C'est l'été à Bayonne, les géants de l'angoisse, au rez-de-chaussée du musée Bonnat. Donc, alors pour débattre sur ce thème bidon ou non de la femme et de sa représentation, nous recevons ce soir sur le plateau de Bonne Aventure Hervé Legros, le directeur du FRAC et le commissaire de l'exposition Le thème un peu bidon de la femme.
Bonsoir. Hein.
Nous recevons par ailleurs Jean-François Texier, artiste expert du tricot, dont une œuvre est présente dans cette exposition. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Et enfin, enfin nous recevons Maider et Joanne, militante à Bertsalé, c'est ça, et féministe. Maider, qui est organisatrice, entre autres, du festival rock Euskalaria Tsutseneane. Je suis experte maintenant en basque. Et puis, qui fait partie aussi des fondatrices de la Maison des Femmes à Bordeaux et d'un collectif contre les violences sexistes à Bayonne et bien d'autres choses dont vous nous parlerez peut-être. Maider, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, alors, pour commencer l'émission, nous allons écouter La Bonne Attitude du Jour, pour laquelle nous avons rencontré Chouchtreil, un jeune bertulariste qui improvise pour nous sur le thème de la femme. On écoute.
Bonne attitude. Ça c'est bona.
Emakumea, emakumeda, betitik ta betirako.
Soustrail, bonjour. Alors, tu es une des rares personnes dans le Pays Basque Nord qui pratique le bertulari. Pour commencer, peut-être, en quoi consiste le bertulari?
C'est le fait d'improviser sur, sur des thèmes, sur un air. Ce sont des airs connus qui font partie du patrimoine culturel et historique. Enfin, c'est des airs qu'on sait tous, à peu près. Ces airs sont classés par métrique. Et donc, Bertschou, il faut, tout en répondant à un thème, il faut rimer et puis respecter cette métrique par rapport à l'air.
En basque ?
En basque.
Un thème qui est imposé ?
Ça dépend. Il y a deux sortes de joutes. Il y a des joutes où il y a un donneur de thème, c'est-à-dire une personne qui nous appelle au micro et qui nous donne des thèmes. Par exemple, qui peuvent nous dire, mais aujourd'hui, chanter sur... la guerre en Irak ou chanter sur
l'art contemporain
à Bayonne, n'importe quoi, tout ce qui est sujet d'actualité ou sinon situation entre guillemets comique ou tragique de la vie de tous les jours. Et il y a une autre sorte de joute où deux bertulari s'en vont dans un village, puis c'est eux qui amènent les thèmes ou qui chantent en fonction de ce qu'ils voient ou ce qui est d'actualité dans le village. Persona guisa jaiotzen data, ala tratatu beharko. Ça existe, ça a plus de 200 ans. Donc c'est une vieille tradition et qui s'est perpétuée de génération en génération et qui a survécu à de nombreuses guerres, au franquisme aussi. C'était pas chose facile parce que bon, pendant le franquisme, du côté nord du pays, du côté sud du Pays Basque, la langue basque était interdite, quoi. Donc, il y a des bertulari qui ont fait de la prison parce qu'ils chantaient pendant le franquisme alors que c'était interdit. Ta estitzagun bakarrik utzi martxoaren zortzirako. Maintenant, si le thème dit que t'es quelqu'un de jeune, il faut que tu parles comme un jeune. Si on te dit que t'es vieux et que t'es avocat ou t'es docteur, non, tu dois ou président de la République, il faut que tu utilises un autre registre.
T'es censé incarner des personnages parfois ?
Oui, souvent, le donneur de thème peut dire, ben, toi, t'es Jacques Chirac, par exemple, et toi, t'es le paysan, voilà, ou Bernadette, et vous voyez plus en ce moment, donc c'est, ça peut être ça aussi. Donc, évidemment, plus la langue s'est enrichie, plus il y a eu de registres. Mais en plus, la façon de voir le berchou a évolué.
Bonne attitude. Ça, c'est bon.
Radio Vrac.
Et nous voilà de retour sur le plateau. Maïder, je crois que vous avez reconnu ce berchoulariste. Vous le connaissez ?
Bon, oui, c'est un des berchoulari du Pays Basque Nord les plus connus, un des plus jeunes aussi, et il gagne régulièrement ce qu'on pourrait appeler des compétitions, hein, parce que c'est organisé assez régulièrement, pas seulement dans le Pays Basque, il y a aussi des compétitions qui sont organisées avec des berchoulari du monde entier, puisque c'est une pratique ancestrale, mais dans beaucoup de pays.
Alors, nous allons nous recentrer sur le thème... bidon ou pas de la femme, Hervé Le Gros. Alors vous êtes le commissaire, vous êtes le commissaire de l'exposition, donc avec ce titre dont nous n'arrêtons pas de parler, le thème un peu bidon de la femme, qui se tient donc tout l'été au rez-de-chaussée du musée Bonin. Alors pour planter le décor, hein, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se cache derrière ce titre et nous présenter cette exposition?
Mais peut-être la resituer. Non. Il se trouve qu'au début de l'année, quand il a été question que effectivement le FRAC vienne décrocher une bonne partie du musée pour y installer des expositions ou on va dire des accrochages art contemporain, il se trouvait que dans le patio, il y avait un accrochage thématique sur le thème de la femme. Donc évidemment avec des tableaux 19e pour l'essentiel, qui traitaient de la femme dans toutes les directions, donc ça veut dire de la muse à la nymphe, au portrait idéalisé, au portrait hystérique, au portrait de groupe, à la femme bourgeoise, type de ce que peut faire Bonnat. Bon. Donc voilà, c'était un ensemble de tableaux qui répondaient très bien à une thématique. Et ce genre de procédé thématique est toujours très énervant, en fait, quand on regarde de l'art, parce que pour les gens qui connaissent pas l'art ou qui ne veulent pas trop le regarder, c'est très intéressant, enfin c'est très bien, parce que effectivement ils peuvent reconnaître que on parle bien du thème indiqué, donc la femme, alors on voit des femmes, donc c'est très bien, mais on ne voit pas la peinture, on ne pose pas forcément de questions par rapport à ce qui a été peint. On voit simplement une sorte de succession de choses qui ont rapport avec la thématique. Voilà. Donc déjà, il y a cette première situation. Et puis, comme il a été question également de faire avec le musée Bonnat, et donc de faire pas contre, de faire avec, et de pouvoir s'y inscrire, mais s'y inscrire avec nos moyens, qui sont ceux de l'art contemporain, qui sont ceux d'une vision contemporaine de l'art aujourd'hui, qui n'est peut-être pas la même, enfin qui n'est certainement pas la même que celle qu'on pouvait avoir au 19e, eh bien, j'ai simplement pris le contre-pied de cette chose-là, et avec une sorte de titre boutade, un peu provocateur, évidemment, en parlant du thème un peu bidon de la femme, mais rien qu'en Aquitaine, le FRAC participe, pour la petite histoire, à trois expositions qui ont pour thématique la femme comme muse dans l'art, de la préhistoire à nos jours, en Dordogne, en Lot-et-Garonne, et puis il y en a une autre dans les Landes pour lesquelles on a prêté une œuvre également. Voilà, c'est des thématiques très récurrentes comme ça, donc c'est un peu expliqué dans ce petit texte du programme, et ça se veut évidemment provocateur, mais en même temps quelque chose qui est là pour justement faire réagir un peu les gens.
Provocateur, pourquoi ?
Provocateur ?
Pourquoi ?
Bah parce que c'est peut-être... parce qu'on parle que de ça, enfin, je veux dire... parce que c'est à l'entrée du musée, on commence par là, et donc ça gratte un peu, quoi, d'emblée.
Alors, François, vous voulez intervenir ?
Dites-moi, Hervé, vous n'avez pas eu envie de... mettre un coup de pied dans les habitudes du musée Bonnat et de ramener des œuvres un peu plus polémique par rapport à ces vieilles œuvres du 19e ?
Ben, elles sont pas vieilles si on est capable de les regarder avec les yeux d'aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que moi j'ai un peu oublié, très innocemment, puisque je ne connais pas l'histoire de Bonnat, enfin ou pas bien, ou pas comme les gens spécialistes de Bonnat peuvent la connaître. Par contre, je vois les tableaux, et donc il y a un portrait notamment d'une femme, d'une bourgeoise comme Bonnat en a fait beaucoup, hein, un portrait de commande, comme il en faisait beaucoup et comme c'était sa particularité, qui pour moi est une sorte de monstre, quoi. Enfin, qui nous fait penser peut-être à des images ou à des choses qu'on peut voir dans des films d'aujourd'hui. Cette femme monstrueuse, mais qui était pourtant l'essence à cette époque-là, visiblement, d'une bourgeoisie qui avait réussi, qui était installée et qui se faisait portraiturer par Bonnat.
C'est le portrait de Madame Léopold Stern, je crois.
Oui, qui est une femme de banquier, la banque Stern, qui existe toujours aujourd'hui, donc on est quelque part dans une sorte d'actualité. Mais on a regardé ça avec des yeux neufs, c'est-à-dire qu'on a regardé ça avec, en oubliant l'aspect culturel de ce portrait. Et en ne prenant que l'image que nous avons devant les yeux, c'est comme si on prenait une annonciation et puis on oublie que c'est une annonciation et on regarde le tableau, ce que font beaucoup de gens en fait dans les musées, parce que on ne sait plus trop ce que c'est qu'une annonciation. Je veux dire, pour un public, voilà. Il y a un tableau d'un peintre qui s'appelle Dupuis, qui est un tableau, petit tableau d'un portrait d'une espagnole. Et ce portrait d'espagnol, bon, ok, c'est un portrait d'espagnol, de femme espagnole, en habit traditionnel et
un peu bidon de la femme espagnole.
Oui, une sorte de stéréotype, quoi, du portrait de la femme espagnole. Mais en même temps, on peut tout à fait aujourd'hui le regarder en se demandant si, avec des yeux d'aujourd'hui, si ça pourrait pas être un travesti et un portrait plus scabreux quelque part. Donc dans cet accrochage là il a cette fonction là c'est d'être quelque chose qui va interroger sur le vraiment, est-ce que c'est bien un portrait de femme espagnole, voilà. Mais je pense que le peintre Dupuis à son époque a voulu faire une femme espagnole, hein. Il n'y a pas de souci, mais bon.
Alors justement, à ce sujet-là, vous dites dans votre petit texte qu'il vous a paru plus juste aujourd'hui de considérer la figure du féminin au-delà d'une pâle question sur le genre. Alors moi, quand je lis ça, j'ai besoin d'explications.
Disons que, oui, ça serait quand même long à expliquer. C'est vrai que c'est très téléphoné un peu, mais bon, on n'a pas beaucoup de place. Alors, l'idée du genre, on est gouverné par ça d'une manière peut-être un peu naturelle. C'est peut-être déjà difficile de dire ça comme ça. Mais enfin bon, on est des femmes, on est des hommes. Et puis voilà, et puis après, on est...
Donc le genre pour vous, c'est la différence des sexes, homme-femme.
Dans une sorte de nature, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, quand même. Mais après, culturellement parlant, on est des hommes et on peut tout à fait être des femmes, et l'inverse, jusqu'à une certaine mesure. Donc, le genre, c'est nous qui le construisons. Ça me semble assez évident. Et que donc, aujourd'hui... en plus, aujourd'hui, ces questions de genre me semblent assez contraignantes pour beaucoup de gens, et peut-être pas pour ceux qu'on croit, c'est-à-dire pour ceux qui croient se libérer du genre. Elles sont assez contraignantes parce que ça forme des groupes, hein, des groupes qui se vivent comme des minorités. Mais bon, on dépasse largement le cadre de l'expo là.
Je sais pas, Maïder Etchouane, vous êtes, je crois, militante féministe. Peut-être c'est des questions auxquelles vous avez déjà pensé. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Hervé Legrand ?
Bon, comment je réagis ? C'est vrai que c'est une discussion un petit peu complexe. Déjà un petit peu revenir peut-être sur le thème un peu bidon de la femme. Donc c'est explorer la figure du féminin. Mais bon, quand on regarde les personnes qui ont participé, les artistes qui ont participé, c'est quand même la figure du féminin par le regard masculin. Donc moi, je me demandais si déjà le thème un peu bidon de la femme, je pense que toutes les femmes, on l'a ressenti ça, hein, on l'a vécu, hein, le truc un peu bidon de c'est quoi être femme. Bon, déjà, c'était la première question que je me posais sur encore une fois, la place de la création culturelle des femmes, elle se pose tout le temps. Et le thème un peu bidon de la femme, moi, je suis quand même un peu déçue qu'il n'y ait pas plus de le ressenti des principales concernées. Après, concernant la question de genre, oui, c'est une construction sociale. Oui, l'assignation au genre, elle signifie beaucoup et pour les uns, et pour les unes et pour les autres. Est-ce que je peux en dire un peu ?
Et alors, à propos de la question justement de la figure du féminin, quel regard vous portez sur l'exposition en dehors de la sous-représentativité du regard des femmes ?
Ouais, au-delà, mais c'est quand même c'est quand même important, c'est quand même une question récurrente, que ce soit en peinture, en photographie, en musique, donc c'est au-delà, mais aussi. Bon, on a des bonnes représentantes hein, quand même, hein, quand on voit les personnes qui exposent ici aujourd'hui. Après l'expo, ce que j'en pense, c'est un peu complexe. Il y a des choses un peu inutiles.
Comme par exemple, n'ayez pas peur.
Cyril, vous voulez intervenir ?
Bon, c'est vraiment le côté, par exemple, explorer l'image de la Marilyn, l'icône, l'histoire de la bourgeoise, tout ça. Bon.
Vous pensez à...
Je pense à un tableau, là, enfin une photo sur laquelle est rajouté en manuscrit icône et bourgeoise. Enfin bon, des choses, j'ai l'impression pas très... Vous voyez pas de quoi je parle, là ?
Si.
Ah oui, les trucs de l'étage, pardon. Je confonds en plus les trucs d'en haut et d'en bas, pardon.
Hervé, vous avez quelque chose à...
Non, je n'ai rien à dire. Non, et pour ce qui est des œuvres, on a fait avec ce qu'on avait. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire qu'on a fait avec les œuvres du musée Bonnat et on a fait avec les œuvres du FRAC, Aquitaine. Donc évidemment, on n'a pas à notre disposition forcément les œuvres les plus prégnantes par rapport à une thématique, mais qui est encore une fois une thématique très floue, hein, parce que c'est la thématique qui est bidon, c'est pas la femme. Alors effectivement, ça joue sur le terme bidon. Le bidon de la femme peut-être aussi, mais bon, c'est plutôt un jeu, quoi. C'est
mais
un
alors
jeu
justement,
de mots.
Justement, Hervé, comment s'est passé le choix des œuvres ?
Bah, le choix des œuvres avec ce qu'on avait, c'est-à-dire que moi je suis parti, comme je le dis dans le texte, de ce tableau de Marie Garay, qui est assez bien, je pense, en tout cas qui est féministe quelque part, ou qui milite à son époque pour quelque chose, on peut le voir en tout cas comme ça aujourd'hui, et je pense que pour le coup, même si elle ne l'a pas énoncé comme ça, cette femme, cette peintre, l'a réalisé vraiment de cette manière, c'est-à-dire que pour vous résumer ou pour vous décrire un peu le tableau, vous avez un groupe d'hommes devant un tableau, justement. Ce groupe d'hommes, il y en a un qui se détache, qui est le maître, qui est donc Léon Bonnat, hein, puisque c'est un tableau en hommage au maître Bonnat. Lui est assis, il regarde le tableau tout en corrigeant, on va dire, la peinture de son élève. Et cet élève, c'est Marie Garay, qui elle seule est en blouse de peintre, blouse blanc et cru, hein, de l'époque, avec sa palette. Sur sa palette, que des tons plutôt gris, plutôt éteints, puisque tout le groupe d'hommes et tout le tableau est fait sous ces couleurs, c'est-à-dire de l'ocre, du gris, différentes teintes de gris, et juste une touche de rouge sur la palette. Et cette touche de rouge sert à peindre, ou en tout cas à colorer, ou à figurer sur les revers des vestes de tous ces hommes, leur Légion d'honneur, hein, parce qu'ils sont tous décorés. Or, elle, on peut le voir comme ça, sa décoration, elle est sur sa palette. Quelque part, la seule artiste du groupe, c'est elle. Et elle est face à ce parterre d'hommes, qui la juge, qui la jauge, elle est donc quelque part une sorte de minorité, mais en même temps, elle est sa propre muse, quoi, quelque part.
Jean-François Texier, je voyais Dodeliner de la tête à plusieurs reprises. Est-ce que je crois que vous avez visité cette exposition par ailleurs, une œuvre, une de vos œuvres en fait partie. Quel regard avez-vous porté sur cette exposition sur le thème un peu bidon de la femme?
Oh, mais un regard attendri et joyeux. C'est une belle exposition. Je vais juste revenir sur le tableau qu'a commenté Hervé Le Gros, sur le tableau de Dupuis sur l'espagnol, parce que c'est un tableau vraiment ravissant. Et c'est vrai qu'il y a comme ça une massivité du visage, mais quand même les sourcils ne se rejoignent pas. Il n'y a pas de moustache. Et en même temps, c'est vrai que les yeux comme ça cernés de maquillage. Elle a comme ça ce très joli corsage fleuri avec une sorte de broche fleurie sur le cœur. On imagine facilement un jupon à volant et des tatouages sur la cuisse. Il y a ce côté-là. Hein? C'est une ambiguïté. Tout à l'heure, je disais, ça me faisait penser à Jean-Paul Gaultier, mais c'est vrai, il y a ça, Frida Kahlo, et oui. On sent une cuisse massive. Quoi. Voilà. C'est juste.
Mais peut-être parce que le nez est fort aussi.
Oui. Peut-être.
Et sur le reste de l'exposition, alors Jean-François?
Sur le reste de l'exposition, je sais pas. En fait, ça me donne aussi envie de parler de Bona, des robes, par exemple, chez Bona. Enfin, ça, c'est jamais. Je sais pas si on peut parler de ça, mais par exemple, le tableau qui est en face, je trouve que c'est un tableau qui est loin d'être monstrueux avec la.
Qui ne fait pas partie donc de l'exposition dont on parle ce soir.
Oui, mais quand même.
Mais allez-y, puisque ça vous fait plaisir.
Et il y a cette robe comme ça, on dirait un taffetas très cassant, épais, argenté, et on dirait du lacroix, quoi, dans la robe, avec cette étole magnifique. Et oui, et Bona, c'est ça aussi. C'est quand même un défilé, et des robes. Et,
tout à fait, d'ailleurs.
Et une envie de parader, de se vêtir et délicatement.
Voilà, très bien, délicatement. On s'est vu tout à l'heure et justement, vous disiez à propos de cette exposition qu'elle était délicate.
Ouais, mais oui, c'est une touche délicate. Et chez Bonhomme, après, la délicatesse d'Hervé a rapproché des œuvres d'art contemporaine, des pièces, alors c'est plus compliqué. Il y a des rapprochements. Qui sont heureux, plaisants, et puis il y a des choses qui. Voilà. Plaisent moins.
Comme par exemple. Qu'avez-vous pensé par exemple de l'œuvre de Nathalie Talek? J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Puisque Maïder et Chouane parlaient par exemple de la sous-représentativité, en l'occurrence c'est une question et un constat peut-être encore douloureux à faire aujourd'hui, un peu partout dans différents champs. Des œuvres de femmes dans cette exposition, elles sont pas nombreuses, donc
il y en a quand même. Mais la pièce de Talek, j'ai pas envie d'en parler, voilà.
D'accord.
Et par exemple la pièce de Sherman, je suis pas convaincu de façon générale sur le travail de Cindy Sherman. Voilà. Après, ça, c'est une autre histoire. Hein, c'est après.
Et pas convaincu sur la pièce elle-même et sur la manière dont elle répond au thème qui est exploré, c'est-à-dire la figure du féminin.
Non, pas là-dessus. Je suis pas convaincu sur le travail, sur la photo de Sherman. Voilà.
Et sur la position, enfin, en ce qui me concerne, sur la position par rapport au féminin.
Oui.
Pour moi. De Cindy Sherman.
C'est pour cette raison que vous l'avez mise dans cette exposition.
Oui, c'est une. Pour moi, c'est une photographe, on va dire, mâle, quoi. Mâle, au sens de. Oui.
Féministe, vous voulez dire?
Je ne sais pas. Je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça, non. Je dirais pas ça comme ça parce que c'est pas vraiment de.
C'est assez binaire finalement pour vous, hein, les choses. C'est,
vous savez, il y a eu une exposition à Beaubourg qui était assez, que moi j'ai trouvé assez grotesque, de laquelle on pouvait attendre un certain nombre de choses, qui s'appelait masculin-féminin, qui était qu'un étalage de choses qui répondaient soit à l'un, soit à l'autre des termes. Et donc c'était qu'une succession de choses plutôt qui s'érigeaient, de choses dans lesquelles on plongeait.
Après, à chacun d'y retrouver ses petits, mais enfin, c'était quand même assez court de voir les choses de cette manière. Là, je pense qu'on n'est pas là-dedans. Alors, je vous parle, moi, de mon impression du travail de Cindy Sherman, puisqu'il en est question là. Mais dans l'expo, on peut très bien la voir autrement. Cindy Sherman, effectivement, par rapport à la figure de cette question du genre, elle est très présente, quoi qu'il arrive.
Alors, par exemple, on parle de cette photo depuis une ou deux minutes. Vous pourriez la décrire ?
Bah, elle est très, très sombre. À la limite, on peut très bien ne voir que ce côté sombre et à peine voir ce qui peut s'apercevoir si on s'en approche ou si on va la décrypter un peu plus, c'est-à-dire un corps allongé sous une bâche de plastique. Mais déjà, je dévoile un peu quelque chose qui est à peine visible en disant ça. Et ce corps est effectivement plutôt un corps de femme, mais qui est grimé. Et on n'en voit pas beaucoup du corps, on voit plutôt le visage ou un morceau du visage. Et ce corps, donc, dans cette position, dans cette espèce d'ambiance très, très nocturne ou très, très glauque, peut-être sombre, ouais. On peut imaginer toutes sortes de vexation, de choses comme ça, enfin d'actes de violents qui a pu avoir lieu avant la prise de vue, quoi. Donc une sorte de résultat de voilà.
Donc une œuvre là décrite par vous, un homme, une œuvre faite par une femme, mais nous tenons donc un des artistes hommes exposés dans cette exposition, Jean-François Texier. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'œuvre qui est exposée ici au musée Bonnat ?
Eh ben, c'est un petit cahier d'écolier avec des photocopies de photographies qui ont été faites par Lionel Fondeville, qui est un ami avec qui j'ai travaillé il y a longtemps. Et ça forme une revue de mode, une revue de nouveautés, dont j'avais besoin. Et ça s'appelle accessoires. Donc, ce sont des choses indispensables en même temps accessoires, mais faites pour tous aussi. Et avec des objets que je fais à la main ou des objets que je détourne. Et ce sont tous ces objets, on les voit dans des photos qui sont des photos de mode. Et des photos qui ont été faites chez moi ou dans la rue.
Et oui, et d'ailleurs, derrière, à la fin, il y a un texte, c'est Accessoires, l'essentiel de Jean-François Texier, 40 pages de nouveautés consacrées aux arts féminins, la mode, la beauté, la culture, la passion, le bonheur. Accessoires pour tout changer, sans changer tout, car l'essentiel, c'est vous. C'est très Elle Magazine.
Oui. Ben oui, 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 et oui. Ben ça fait partie de mes lectures aussi, et voilà. Donc c'était... Ben oui, c'est un petit livre comme ça qui fait pas référence à la mode, qui est un livre sur la mode. Voilà. Et sans ironie, sans dérision, sans... Il n'y a pas aussi... Oui, parce qu'on m'a demandé ça tout à l'heure, mais c'est pas critique non plus. C'est comme j'en ai besoin. Voilà.
Et alors, heureux d'être exposé dans une exposition comme celle-ci sur le thème un peu bidon de la femme ?
Oui, oui, oui. Oui. Eh ben, je vais répéter. D'abord, je trouve que la pièce a été bien présentée, parce que c'est une pièce qui appartient au FRAC. Et je trouve que la pièce a été bien présentée, intelligemment. Je vois qu'elle est en bon état, donc tout ça me réconforte. Et je trouve que la confrontation, je ne vais pas revenir sur cette peinture de Dupuis, mais ça, voilà, ça m'a plu. Je trouve aussi le lieu très beau, même la présence de Blasier et puis d'Hibert aussi, je trouve que c'est très frais et délicatement décalé.
Bon, tout à l'heure dans la chambre d'hôtel, vous étiez un peu plus sceptique.
Peut-être, oui.
Et alors, vous vous reconnaissez, vous, dans ce thème un peu bidon de la femme, dans cette interrogation de la figure du féminin ? Vous comprenez ce que vous faites là ?
Hervé l'a très bien dit tout à l'heure. Ce qui est bidon, c'est pas la femme, c'est le thème d'exposition. Voilà. Alors, ben, je suis pas une femme, hein, voilà aussi. Et alors, donc ça me touche pas. Ça.
Qu'est-ce voilà. qui vous touche pas ?
Ben, le thème un peu bidon de la femme.
Ouais. Non, mais dans les questionnements qui sont proposés là dans le programme, vous vous reconnaissez vous là-dedans ?
Me reconnaître, comment me reconnaître ?
Mais je crois que, par exemple, dans votre travail, vous accaparez un peu des codes du féminin, vous faites du tricot, comme Rosemary Trockel, comme l'œuvre de Rosemary Trockel, qui fait du tricot sur...
Oui, bah, je vais répondre. Alors d'abord, le tricot, c'est pas féminin du tout, parce que le tricot, justement, historiquement, c'était les galériens qui tricotaient au début. Et bon, alors on peut faire remonter ça à Pénélope, d'accord. Mais historiquement, d'abord oui, Pénélope ne faisait pas la tapisserie, elle tricotait, c'est sûr. Mais les galériens, c'est une réalité historique. Donc ça n'a rien de féminin. Le tricot, en plus, c'est une activité pénible, physiquement difficile. Bah oui, ça a l'air de rien, mais on a très vite mal à la colonne vertébrale. On a très vite mal aux mains. Voilà, enfin, c'est féminin. Oui, c'est féminin. Enfin bon.
C'est bien connu, les femmes ne font pas de travaux pénibles.
Donc non, ça c'est déjà, c'est très critiquable. Voilà, après l'autre question.
Une autre question, on discutait tout à l'heure, donc on dévoile un peu les dessous hein, dans la chambre d'hôtel. Vous me disiez d'abord que vous reconnaissiez, vous ne saviez pas tellement en arrivant dans cette exposition quel en était le thème, si vous ne l'avez pas vu écrit en gros à l'entrée. Hein. Jean-François, vous pouvez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire là.
Oui, oui.
Du tricot.
Non, mais c'est vrai que le thème, c'est vrai que ce n'est pas forcément... Enfin, le thème bidon de la femme, mais c'était pas forcément ce à quoi j'aurais pensé en visitant l'exposition tout de suite. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de portraits de femmes.
Vous trouvez même qu'il en manque ?
Un peu, mais Hervé a dit une chose très juste, c'est qu'il a, enfin, en parlant de féminin masculin, je trouve ça très bien, parce que c'était tellement lourd, et Hervé dit grotesque, mais tellement lourd féminin masculin, et là on n'est pas dans ce propos-là. C'est vrai que je trouve que la pièce de Journiac, par exemple, prend un éclat fort, quoi, ici. En plus, on est quand même dans un lieu historique, et c'est une pièce dépouillée, qui fonctionne par panneau. Je trouve qu'elle éclate, et je trouve qu'on a tout de suite un regard différent sur les peintures de femmes, les peintures de femmes du 19e ensuite qui l'encadrent.
Et c'est un questionnement sur les genres que pose un peu l'œuvre de Journiac, vers laquelle vous auriez...
Ah, complètement. Bon, alors c'est une pièce en... Bon, très engagé des années 70 et enfin ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, ben bon, tout ça n'est plus, je pense qu'il y a cette question là n'est pas résolue, mais je pense, enfin, moi je me sens pas du tout, j'ai pas envie de travailler là-dessus. Voilà, le travail de journal, c'est le travail de Journiac avec un engagement, avec des idées fortes, c'est pas un travail léger aussi, voilà.
Mais je crois que vous avez amené un objet. Vous êtes le premier invité d'ailleurs à nous amener un objet. Alors de quoi s'agit-il ?
Oui, et bien justement, je vous ai amené des aiguilles à tricoter.
Micro ?
Alors, je vous ai amené des aiguilles à tricoter. Et justement, et ben ça vous, avec cet objet, on peut bien s'apercevoir que le tricot n'est pas du tout une activité légère.
Mais alors, c'est quoi ces aiguilles ? Elles sont énormes, elles sont rose fluo.
C'est du 25. C'est du 20. Alors c'est des aiguilles des années 70.
Ouais, très pop.
Et donc, ça, c'est des aiguilles qui ont libéré la femme dans les années 70, quand même. La femme. Alors, c'est des monoblocs creuses. En fait, c'est du numéro 20. Et c'était pour faire de la lirette. On faisait des tapis de sol, des très, très grosses écharpes. Elles sont creuses pour éviter que le tricot ne plie comme ça et ne vienne courber l'aiguille. Et puis surtout que pour empêcher pour ne pas avoir mal à la main en les tenant. Vous voyez ?
Et alors pourquoi vous nous avez apporté un tel objet ?
Parce qu'on dirait, on dirait des objets pour aller à la corrida. Et j'ai trouvé que c'était bien par rapport à Bayonne.
Et au fait basque.
Et du un monsieur du Courreau, voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'était, oui, c'était important. Et en même temps, c'est des aiguilles dont on a tellement parlé dans les modes des travaux et les bergères de France des années 70, que c'était aussi pour montrer que modes des travaux à la fois a permis comme ça l'épanouissement de la femme moderne, mais en même temps, enfin, c'est un drôle d'épanouissement quand même. Hein. Voilà, je trouve.
Le droit des femmes. Le droit des femmes. Le droit des femmes.
Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine.
Depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'Église. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus. Je le proclame,
je le proclame.
Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus.
Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là.
Suck my d-
vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes.
I wanna be a butch, just a butch, 'cause butch are strong. I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive.
Elle me parlait anglais tout le temps, je lui répondais de trois mots bidons, des trucs entendus dans des chansons, consternation.
Je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus.
Brand new break.
Alors, nous sommes toujours donc sur le plateau de Bonne Aventure, en compagnie pour débattre sur l'exposition, le thème un peu bidon de la femme, en compagnie d'Hervé Legros, le directeur du FRAC et commissaire de l'exposition, Maïder, et Chouane, qui est militante et féministe, et plein d'autres choses, mais c'est pour cette raison que nous la recevons ce soir. Et enfin, Jean-François Texier, qui est artiste, dont une œuvre est présente dans l'exposition. Alors, ce thème un peu bidon de la femme, vous le disiez tout à l'heure, n'ayez pas peur Hervé, ça va continuer. Donc, ce thème un peu bidon de la femme, vous le disiez tout à l'heure, c'est un titre provocateur. Provocateur aussi parce qu'on peut l'entendre de différentes manières. Donc là, on a parlé de la manière dont vous l'entendiez, mais on peut aussi, ça peut aussi évoquer, c'est ce dont parlait Maïder tout à l'heure, des problématiques posées à la femme dans l'art contemporain. Est-ce que c'est un problème un peu bidon, un thème un peu bidon, et notamment en termes de représentativité. Alors sur ce sujet-là, on va écouter tout de suite un extrait d'une émission enregistrée sur Pink TV. Où on entend Béatrice Josse, que vous connaissez bien, je crois, Hervé, qui est directrice du FRAC Lorraine, et qui nous parle de son exposition exclusivement féminine, qui s'appelle Wonder Woman.
Cette exposition Wonder Woman, qui porte donc le titre de la série télévision de Wonder Woman, qui est donc détournée par cette artiste américaine, Dara Birnbaum. Dara Birnbaum se moque effectivement de cette Miss Univers, puisqu'il s'agit d'une Miss Univers. Cette femme qui est censée sauver le monde, donc a tendance un peu à tourner en rond. Donc, titre ironique qui est à lire effectivement donc au second degré, alors que l'ensemble des autres pièces ne sont pas du tout sur le même ton. Cette exposition a la particularité de mélanger à la fois des œuvres de la collection du FRAC et aussi des œuvres qu'on emprunte. Et c'est justement parce que la politique d'acquisition, qui était à un moment donné uniquement axée sur les femmes, a été tellement remis en cause en France que j'ai souhaité pousser le bouchon encore un peu plus loin en disant, puisque ça vous gêne autant, ben je vais même faire une exposition qu'avec des femmes, en proposant justement une lecture d'artistes femmes, non pas des artistes qui font de la broderie, mais des artistes femmes engagées. À dire vrai, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est pousser les limites jusqu'au point de l'acceptation. Mathilde Therrien, elle, est une artiste allemande qui vit à Berlin, qui a la caractéristique depuis plusieurs années de travailler avec son double. C'est-à-dire qu'elle fait un double d'elle en cire, qu'elle met en situation, c'est-à-dire même de situation de suicide parfois. Ce qui m'intéresse aussi dans cette proposition, c'est le discours qu'on a en général vis-à-vis de l'art contemporain. On dit c'est hermétique, on n'y comprend rien. Or là, il ne s'agit pas de comprendre, puisqu'on ces œuvres agissent réellement physiquement sur son propre corps. Est-ce que les femmes ne vont pas plus loin encore que les autres? Mais ne sont-elles pas obligées d'aller très très loin, jusqu'à la provocation, jusqu'à utiliser leur propre corps ou le corps des autres pour parler de l'engagement dans le monde? Ce qui n'est peut-être pas le cas des hommes, qui ont un champ beaucoup plus large d'expression.
Alors, c'était donc Béatrice Joss, directrice du FRAC Lorraine, à propos de cette exposition exclusivement femme. Hervé Legros, dans votre texte de présentation, à propos donc du thème un peu bidon de la femme, vous avez écrit cette phrase.
Il fallait pas l'écrire.
Donc, que je décontextualise. Elle a réussi à faire mieux que s'émanciper, avec une astérisque. Et qui renvoie, donc je cite encore la phrase, à l'heure où nous imprimons, Annette Messager vient de recevoir le Lion d'or de la Biennale de Venise 2005. Face à ce que, mis en perspective avec ce que vient de dire Béatrice Joss, c'est-à-dire cette sous-représentativité, peut-être la nécessité pour elle de passer à un moment donné par une exposition comme ça, consacrée exclusivement aux femmes et faite par des femmes. À propos de cette émancipation, justement, et de cette sous-représentation.
Mais, peut-être déjà revenir sur Béatrice Joss et son engagement en tant que directrice du FRAC Lorraine. C'est vrai qu'elle a développé une collection, puisqu'on nous demande, ça c'est un peu de la cuisine interne, mais il faut peut-être le resituer quand même, on nous demande de plus en plus d'avoir des thématiques bien précises au niveau des acquisitions dans chacun des fracs. Donc vous avez comme ça le frac centre qui s'est délibérément orienté vers l'architecture, donc l'art, les rapports de l'art et l'architecture, ce qui est un vrai rapport effectivement. Vous avez le frac Picardie qui lui s'est intéressé simplement au dessin, c'est-à-dire un médium qui aujourd'hui rentre effectivement dans beaucoup d'œuvres d'art, mais qui n'est pas forcément à l'origine ou qui représente qu'un médium, ce qui peut-être est beaucoup plus discutable. Et Béatrice, qui, elle, a pris un parti très, très direct et donc très discutable, qui est celui de défendre un art de femme, et pas n'importe lequel, elle le dit, c'est-à-dire un art de femme engagée, donc pas des femmes qui font de la broderie, ce qui est déjà, elle va vite parce qu'elle est obligée, mais c'est déjà un non-sens quelque part. Mais en même temps, moi, par rapport à cette thématique dit comme ça, qui peut paraître ridicule, quand elle en parle, elle, et quand on en parle ensemble ou avec d'autres gens un peu du milieu, je dirais, c'est très compréhensible et c'est assez fort. Hein. Après ça, faire une exposition qu'avec des femmes, dans son propos à elle, ça s'entend, ça se comprend. Après ce qu'elle dit à la fin de cet extrait que vous avez passé, moi, si je garde ma position, mais qui n'est pas très éloignée de la sienne, loin de là, elle dit quand même quelques propos sexistes. Si c'était dans la bouche d'un homme, si on inverse les propos, c'est impossible à dire ça, ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que
ce qu'elle a dit à la fin, si vous vous souvenez, je ne me souviens plus trop, mais que les femmes doivent en faire encore plus pour se faire voir, parce que les hommes, eux, n'ont pas besoin de se faire voir, ils vivent très bien comme ça, et peuvent...
Parce que leur champ d'expression est plus large.
Voilà.
Et bon, qu'elles partent de plus loin, étant donné leur position.
Oui, ouais, ça j'entends bien. Ça, c'est le propos de toute minorité qui se respecte. Hein. Mais le problème, il est que non. Moi, je suis désolé. C'est peut-être plus dur de faire de l'art intéressant pour quelqu'un qui sait dessiner que pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner. À mon avis, c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un qui sait faire quelque chose bien de le faire en le détournant plutôt que justement d'être dans l'engagement et dans quelque chose qui va être effectivement très fort parce que c'est plus fort que tout, parce que il faut se dégager de l'emprise dans laquelle on est, je suis d'accord. Mais à mon avis, c'est plus facile d'être libre en prison, pour être peut-être plus, pour prendre une image un peu simple, que d'être libre dans la vie de tous les jours. Mais bon, ça n'engage que moi ce soir.
Maïder, et
ça donne envie de poser une question bête. Après tout, on peut être l'invité un peu bidon aussi. Ou... non, enfin, d'un côté, ça donne envie de demander tout simplement, avez-vous déjà séjourné en prison? Et d'autre part, je m'interroge sur l'idée, je ne vois pas en quoi c'est sexiste de dire les femmes doivent en faire plus. C'est une triste réalité. Hein. Enfin, il n'y a rien de...
Non, c'est pas ça qui est sexiste, c'est le propos de qui va en suivant. Il faudrait réécouter l'extrait, les derniers termes, où elle dit que les hommes n'ont pas besoin de se bouger, quoi. Tout leur est déjà donné, tout cuit. Donc,
mais ils ont moins besoin.
Je trouve ça très sexiste, c'est tout. Mais à la limite, ça ne me gêne pas. Hein.
Ah
c'est,
oui, non, mais.
C'est ce qu'on entend très souvent.
Oui, non, mais c'est pas ça.
C'est pas très grave.
Ah non, mais c'est pas la question que ça soit que ça vous gêne ou que ça vous gêne pas. C'est que c'est une réalité. C'est pas être sexiste que de dire ça. Je veux dire, effectivement, on peut prendre n'importe quel domaine, que ce soit l'égalité de salaire, etc. Les hommes ont besoin d'en faire moins, évidemment. De la même façon que d'avoir un passeport européen ou d'être blanc, on a plus de chances dans la vie sur le continent européen ou aux États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est ne pas vouloir reconnaître les attributs du dominant, quand même. Oui, les hommes ont besoin de moins en faire que les femmes, de la même façon que les blancs ont moins besoin de prouver qu'ils sont moins voleurs que les arabes. Enfin, j'essaie d'utiliser des images un peu caricaturales comme ça, mais...
Par exemple, la Biennale de Venise, le commissariat est assuré, donc ça a été un co-commissariat assuré par donc deux femmes, Maria De Coral et Rosa Martinez. Récemment, dans une interview, l'une d'elles ou les deux de concert constataient que le marché de l'art était dominé largement par les ventes. Hein. Le marché de l'art était largement dominé par des œuvres produites par des hommes blancs, américains ou européens. C'est une manière aussi d'y voir un écho aussi.
Moi, je ne vais pas m'opposer à ça. Je veux dire, c'est une réalité, très bien, mais on est dans cette réalité-là. Je sais pas.
Et vous êtes directement concerné, non ?
Comment ?
En tant que directeur de FRAC, vous êtes directement concerné par ce genre de réalité ?
Ben non, parce que moi, je m'intéresse à l'art et je m'intéresse pas forcément à des panels ou des statistiques de ce type. Je m'intéresse à la production qui est faite et que j'ai devant les yeux, et qu'elle soit faite par telle personne ou telle autre, c'est important. Que cette personne soit une femme ou un homme, c'est aussi important, mais à des degrés très différents selon la production dans laquelle, à laquelle je m'intéresse. Donc je ne vais pas voir les choses de cette manière-là. On va pas, enfin, ça m'est totalement impossible.
Et alors, est-ce que, par exemple, vous constatez...
Mais je ne vais pas contredire ça, c'est clair, mais les...
Non, mais... Forcément, vous n'allez pas le contredire, c'est un fait.
Mais c'est un fait, mais comme il y en a plein d'autres, des faits, il y a plein de gens qui se tuent sur la route, c'est un fait. Il y a plein de gens qui se suicident, c'est un fait. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui se suicident? Je ne sais pas. Tout ça est un fait, tout ça sont des faits.
Ne pas noyer le poisson. Hein.
Non, je ne vois rien.
Je vois Jean-François qui se marre bien là dans son coin. Alors Jean-François, un avis d'artiste là-dessus ?
Ben non, dit-il.
Ben non, j'ai pas d'avis.
Pour temps, beaucoup de réactions physiques quand même.
Bah non. Non, mais enfin, je trouve ça un peu... Enfin, j'ai pas de réaction parce que je trouve ça un peu dépassé, quoi, tout ça aussi. Voilà.
Bon, alors, par exemple.
Non, au mal, phallocrate et machiste, et voilà.
Un galeriste récemment, que vous connaissez, Jean-Francis Dumont, constatait, en tout cas dans sa manière de travailler, dans le rapport qu'il avait aux artistes, un rapport aux œuvres beaucoup plus fort, un intérêt qu'il avait trouvé beaucoup plus grand chez les artistes femmes pour ce qu'elles avaient à dire et à produire. C'est en substance ce que dit aussi Béatrice Josse en décrivant la place d'où partent les femmes dans un rapport comme ça de sous-représentation, de domination et d'absence aussi peut-être d'écho. Enfin, je pense que ça parle de tout ça et de la force qui nécessaire à déployer pour se faire entendre et peut-être du coup d'en dire davantage et d'avoir peut-être aussi plus de choses à dire.
Oui, non mais les gens peuvent voir ce qu'ils veulent, même dans ces chiffres que vous citiez tout à l'heure sur le fait qu'effectivement il vaut mieux être blanc, américain pour être sur le marché de l'art. Je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire pour autant que le marché de l'art ou que l'art américain des hommes blancs américains est le plus intéressant, en tout cas qui, moi, me concerne le plus dans ce que j'essaye de faire ici, et notamment...
C'est américain et européen.
Américain, européen, enfin, je veux dire occidental. Donc c'est un propos que moi je ne vais pas... c'est leur propos, c'est très bien. Je trouve ça un peu trop facile que de dire ça. Voilà. Je trouve ça un peu trop facile et un peu vite dit. Et quand on sait tout ce qu'on met derrière tout ça, normalement, des gens qui s'intéressent à l'art ne devraient pas vraiment dire ça, parce que c'est pas la question importante, quoi. C'est pas la question.
Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les femmes et justement parler de chiffres. Et donc, quand on regarde les chiffres en photographie, les femmes sont en très bonne position et atteignent des prix énormes. Et alors, en parlant de femmes, je vais revenir sur Maïder. Waouh, quel retour. Maïder, eh bien, en tant que féministe basque, vous colliez des affiches cet après-midi contre les violences sexistes, c'est bien ça? Alors, est-ce que c'est pas trop dur d'être une femme dans le Pays Basque, Maïder?
Ouais, c'est très très loin de la performance artistique, hein, de faire des campagnes contre les violences sexistes. C'est aussi une réalité. Et moi, j'ai envie de revenir quand même sur un petit peu le sujet. Là, je suis assez interpellée par ce que je viens d'entendre. Autant tout à l'heure, quand vous m'avez demandé mon avis sur l'exposition, j'ai fait l'invité un peu bidon. Je me suis exprimée sur ce qu'on me demandait pas. Parce que finalement, je me suis demandé, mais dans cette expo, il est où le thème un peu bidon de la femme, quoi? Et là, je trouve ça génial, parce que quand je vous écoutais comme ça, vous dites, voilà, il y avait eu une expo au Musée Bona, c'était la femme dans toutes les directions et tout ça. Alors nous, on a voulu être un peu provocateur, interpeller les gens, interroger le public avec le thème un peu bidon de la femme. Et moi, j'avoue que le titre, comme ça m'a vachement interpellée et tout. Je trouve que c'est déjà, d'une part, c'est rigolo. Et on se dit, tiens, voilà, on va explorer le thème un peu bidon de la femme. Et après, on vous écoute parler, alors tout d'un coup, ce serait l'art complètement désengagé, soustrait de son contexte. Tout ça, c'est des chiffres, tout ça, c'est une réalité, comme si les artistes ne vivaient pas dans une réalité dite, donnée, comme si la réalité était la même pour ceux qui font et ceux qui voient, ou pour celles qui font. Et enfin, je trouve complètement... ça, c'est vraiment un décalage incroyable, ou alors un culot... incroyable aussi.
Mais non, moi je m'occupe d'œuvres, je m'occupe pas d'artistes. Donc les artistes, effectivement, ce sont eux qui font les œuvres. Mais les artistes, je les laisse là où ils sont. Et, enfin, je veux dire, sans aucune. Enfin, je parle un peu vite, mais bien sûr que je les vois, mais quelque part, je fais une collection, puisque c'est ma fonction. Donc je la fais avec des artistes vivants, donc je, je, je les côtoie, je les visite, et ils me demandent d'aller les voir, je les aide comme je peux, et donc je vois leurs engagements, je vois tout ça, donc je le sais, et je respecte quoi qu'il arrive tout ça, donc c'est pas du tout une question de déréalisation de quelque chose, c'est plutôt qu'à un moment donné, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste des œuvres, et ces œuvres, en fait, on les réinterprète très souvent, et elles servent à quoi? Elles servent à nous qui sommes lambda, donc artistes, femmes, hommes, enfants, vieux, voilà, on se regarde, et on se regarde dans ces œuvres, et on est capable d'y amener, nous, et les rendre vivantes, ces œuvres, ou du moins qu'elles nous... qu'elle soit une sorte d'écho à quelque chose qui bouge, et ce quelque chose qui bouge sont les idées qui sont derrière ça, et qu'on veut bien mettre, quoi, nous. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de miroirs dans cette expo, hein, notamment celui de Zobernig, qui est un peu cassé, qui est un tableau, mais dans lequel on se voit. Il y a aussi dans l'œuvre tout simplement de Journiac, elle se termine par un miroir. Donc tout ça, il est question de voir des œuvres. La thématique, il faut peut-être un peu l'oublier. Donc on parle que de ça, on parle que de mots, que du petit texte qui est forcément trop court. Ce sont des œuvres exposées devant lesquelles, en fait, on doit pouvoir se remettre, nous, spectateurs, en question. Voilà, c'est tout. Et en question, si on veut se remettre en question par rapport à cette thématique, si on la voit, alors ce sont que quelques œuvres, donc c'est pas vraiment une exposition avec un développement, un début, une fin. Ce n'est qu'un panorama, hein. Mais en même temps, il y a moyen, je pense, de se poser quelques questions par rapport aux œuvres qui sont présentées, voilà, et de se les poser par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on est, nous?
Juste, j'aurais une dernière question. Si c'est un petit peu oublié l'objet de la rencontre, qui était le thème un peu bidon de la femme, moi j'ai quand même envie de vous demander, plus en tant que, je sais pas, activiste, réactive, qui colle des affiches dans la rue, c'est quoi l'objectif de cette expo, le thème un peu bidon de la femme? Comment vous avez envie d'interroger les gens, ou comment vous avez pensé tout ça, si finalement il faut oublier le thème?
J'interroge les gens sur la manière ou sur la capacité qu'ils ont de, eux, se remettre en question. Donc il y a des gens qui demandent à être remboursés à l'entrée du musée parce que ils voient ce titre qui les déçoit ou qui les énerve un peu. Alors ils vont voir un peu, donc ils payent leur entrée, puis ils voient que c'est pas bonin, ils voient que c'est, et ils demandent à être remboursés réellement. Voilà, donc ces gens n'ont pas besoin ou n'ont pas envie d'être mis en question, ou peut-être n'ont pas envie d'être mis en question de cette manière-là, ne vous viennent pas là pour ça. Bon, mais très bien, mais moi je vais pas les obliger. Je suis là pour poser des questions, ou pour poser un problème, ou pour mettre un point d'interrogation à qui veut, et il n'y a pas qu'un sens à cette exposition. On peut y voir, c'est ça qui est bien dans une œuvre d'art, je pense, c'est qu'on peut y voir tout ce qu'on y met, quoi. Nous, le entre guillemets consommateur de cette œuvre d'art. Donc la thématique est un prétexte, effectivement.
Convaincu, Maïder?
Non, j'écoute. Enfin, c'est peut-être c'est se poser des questions, donc remettre en question la figure du féminin. Moi, j'étais plus dans la perspective d'essayer de comprendre ce que vous avez voulu interroger avec l'installation, la manière dont vous l'avez installé, ce que vous avez choisi de présenter parmi ceux que vous aviez. Je me demandais finalement, oui, qu'est-ce que vous interrogiez c'est la question que je me suis posée. J'étais un peu dubitative, en fait, en sortant, vraiment en me demandant, mais il est où ce thème un peu bidon de la femme?
Simplement, oublions les noms d'artistes, hein, et il y a beaucoup de gens qui font ça, hein, y a beaucoup de gens qui visitent des expositions sans regarder aucun cartel. Hein,
mais moi, je les oublie pas, je les connais pas, à part deux, voilà, trois.
Eh bien, êtes-vous capable de faire le tour de l'accrochage qui est en bas, et de dire, ça, c'est une œuvre de femme, ça, c'est une œuvre d'homme? Pour certaines, oui, c'est possible. Pour d'autres, absolument pas. Ça, franchement. Donc, et pourtant, elles sont sexuées, ces œuvres. Bon, voilà. Pour moi, elles sont sexuées. Elles sont là avec une place qui est assez claire. Mais parce que c'est moi qui l'ai fait, je leur ai assigné une place et donc je sais pourquoi. J'ai pas fait ça simplement.
Alors tout de suite, nous avons une réaction dans le public. Je crois qu'on veut vous poser une question.
Non, une petite observation de ma place de spectatrice naïve en venant dans cette exposition. Donc je passe du rez-de-chaussée. Thème bidon de la femme, bon, je reste sur ma faim, je monte à l'étage par curiosité, je tombe donc dans la galerie Bonnard et me voilà face à une œuvre qui finit de me clouer le bec, à savoir une œuvre du Duprat qui reprend l'origine du monde de Courbet en y mettant un sexe donc mou, un sexe d'homme mou, intitulé La fin du monde, qui pour moi est l'expression totale finalement de l'angoisse par excellence des hommes, à savoir l'impuissance, et qui finit de me dire que vraiment c'est du foutage de gueule.
C'est votre interprétation de la chose. Moi, je n'ai rien à répondre à ça, c'est une interprétation. Donc c'est effectivement un sexe d'homme. Bon, d'abord, si on reprend, puisque vous l'avez vu, le tableau de Courbet, qui est donc l'origine du monde, hein, qui est cette entrecuisse de femme, où donc on voit un entrecuisse de femme avec un sexe ouvert, hein, qui est un tableau qui est maintenant assez connu, qui est à Orsay, mais qui a été longtemps caché, qui a été longtemps disparu, qui est d'ailleurs dans l'exposition par une sorte de citation qu'a fait un autre artiste, Daniel Schlier, un peu plus loin dans l'exposition. Là, on est en face de quelque chose qui n'est pas un tableau, qui est plutôt un logotype, hein, qui est plutôt un collage directement sur le mur. Donc, c'est pas exactement la même chose. C'est pas tout à fait. On n'est pas dans la même pratique. Et puis, le dessin est vraiment très simple et un peu benêt, je dirais. Donc là aussi, ça rajoute quelque chose qui n'est pas. On n'est pas dans quelque chose qui se veut être dans le pathos, ok? C'est pour ça que je resterai un peu sur la réserve par rapport à cette côté de ce complexe de l'impuissance de l'homme. Hein, et puis cette chose est effectivement assez référencée puisque on n'est pas là pour ça au FRAC, hein, on n'est pas là pour faire du retour sur l'histoire, mais ça a un terme, ce sexe d'homme qui n'est pas bandant, c'est une mantula. Et ça avait une fonction assez particulière, notamment dans l'Antiquité. Et ça n'avait rien de honteux que ce sexe d'homme qui était là comme ça. Alors, évidemment, il y a la fin du monde, qui est le titre de l'œuvre. Mais l'origine du monde, la fin du monde, c'est deux hommes qui, à des époques différentes, ont fait deux œuvres qui sont totalement différentes, mais qui parlent peut-être de la même chose. Et je pense que l'œuvre de Duprat, à mon avis, parle plutôt de notre monde, mais pas du complexe de l'homme, quoi, ou de l'homme, je veux dire, de l'homme masculin. Hein.
Bon, je ne suis pas historienne de l'art, mais il me semble que là où on voit vraiment qu'il y a une différence dans la pratique des femmes et des hommes, c'est qu'un homme va exposer un sexe mou pour qualifier la fin du monde, et une femme comme Orlan, qui a repris aussi la même idée, a montré un sexe d'homme en érection et l'a intitulé « L'origine de la guerre ». Bon, voilà, ça, toute sa portée aussi, à mon avis, de l'intérêt... de l'œuvre des femmes aussi dans une démarche féministe.
Mais c'est pas évident d'être un homme aussi. On continue ?
Bonne intervention, François.
Maïdé Retchouane, peut-être qu'on conclura là-dessus sur de toute façon ce constat de la. Pour sortir de l'art contemporain, de la permanence des inégalités, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes. Militante et vous adhérez au collectif contre les discriminations sexistes, et je crois que pour l'actualité brûlante qui concerne Bayonne et ses fêtes, vous étiez dans la rue cet après-midi.
Voilà, nous étions dans la rue cet après-midi pour aller donc coller des affiches sur la question des violences sexistes, pour interpeller un petit peu les gens. Et puis quelque part, ça me, pour en revenir à l'art, je me dis que l'art est aussi un petit peu dans la rue. Et moi, j'aime bien coller des affiches, et en plus, quand elles ont du sens. Et c'est ici un peu la question qu'on a envie de poser sur l'art engagé aussi, quand même, enfin, sur la dénonciation des choses. Et ça fait partie un petit peu, effectivement, du travail au quotidien qui reste à faire, notamment dans des fêtes comme celle-là, où, qui brassent des millions de gens.
Notamment au Pays Basque.
Mais disons, notamment au Pays Basque, le problème du Pays Basque, nous n'avons pas de statistiques propres et de choses comme ça, et que comme dans beaucoup d'endroits, on manque cruellement de structures. Et donc ça reste vraiment quelque chose d'actualité, puisque chaque année on déplore des violences un peu partout, et notamment il y a un degré de permissivité pendant les fêtes, parce que alors là tout d'un coup tout devient possible. Donc c'est vrai que ça devenait vraiment urgent. L'année dernière on l'a fait, les gens étaient un petit peu surpris, parce qu'en fait l'idée c'est d'aller discuter un petit peu dans les endroits où les gens vont accueillir du monde. Parce que c'est ça aussi, c'est un petit peu l'affaire de tout le monde, c'est un petit peu l'idée qu'on a, et c'est pour ça qu'on fait du collage de jour et qu'on va discuter avec les gens.
Je crois que sur ce, on va s'apprêter à courir dans les rues, voir de la Jacqueline.
Oui, voilà, nos invités ont clairement choisi leur camp, tandis que l'alarme incendie du musée Bonnat s'enclenche, mais c'est pas grave, c'est trop Voilà, générique de fin. Alors, je disais à l'instant que nos invités ont clairement choisi le programme de leur soirée. Jean-François Texier est tout de noir vêtu, donc vous n'avez absolument pas l'intention de vous balader dans les rues bayonnaises, de boire, de faire la fête, tandis que le directeur du FRAC, Hervé Le Gros, tout de blanc vêtu avec un bandana rouge autour du cou.
Eh bien, bon courage à tout le monde alors pour les fêtes de Bayonne.
Entre intégration et contradiction.
Oui, quand même, parce que dans cette exposition, il y a des pièces magnifiques. C'est vrai, quand même, il faut le dire. Et que la pièce de Fabrice Hibert est magnifiquement mise en scène dans le patio. Et la pièce de Blasi aussi, et qu'il faut absolument venir les voir. Voilà. Voilà. Oui, elles sont bien intégrées, elles poussent, elles giclent. Et voilà, donc il faut venir les voir.
Merci Jean-François Texier pour cette intervention de dernière minute.
Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour le Coton-Tige. On recevra tous les commissaires de l'exposition qui a lieu au Carré Bonnat en ce moment, qui s'appelle Les choses à leur place. Et donc nous animerons un débat avec donc Xavier Boussiron, Frédéric Duprat, l'auteur du tableau peu apprécié dans le public, et puis qui c'est qu'il y a d'autres,
Stéphane Correa,
qui n'est pas un tableau.
Qui n'est pas un tableau, et Arnaud Labelle-Rojou, et vous Hervé Le Gros, donc en direct du bar de l'hôtel, du Grand Hôtel, pour le Coton-Tige.
Merci, bonsoir.
Bon, mais bonsoir, et François, tu veux dire quelque chose?
Et si vous n'en avez pas eu assez d'Hervé, vous pouvez toujours faire une visite guidée avec lui. Un seul numéro, 05 59 59 08 52, c'est le numéro du musée Bonnat. Et pour l'heure, il est l'heure, bien sûr, de conclure, mais de remercier le service informatique de la mairie de Bayonne, Daniel Bilela, merci. Le serveur qui a été mis à notre disposition par Mediacité. Et puis, un petit coucou à notre ami Christophe Ondelatte, parce que vous êtes sur Radio FRAC, la radio qui n'a qu'une seule onde, qui latte, et qui boycotte Christophe Ondelatte. Voilà, à très bientôt, à dans 15 jours, sur www.radiofrac.com, la radio aux couleurs des fêtes de Bayonne. Au revoir.
Ciao.